Amis de la poésie et de Radio Occitanie, bonjour, les poètes, une émission de Christian Saint-Paul et Claude Bretin. Alors aujourd'hui, nous avons un invité dans ce studio de la rue d'Assali, un invité qui a été un familier de cette émission il y a quelques années. Il s'agit de Philippe-Marie Bernadou. Philippe-Marie Bernadou qui nous vient du soleil, de
la
côte catalane, excusez du peu, et qui vit maintenant donc à
Bagnols-sur-Mer.
Bagnols-sur-Mer, voilà. Bagnols-sur-Mer, donc près de Collioure. J'étais samedi à Port-la-Nouvelle. Port-la-Nouvelle, où il y avait un vent terrible.
Oui.
Et je pense que là, il y a un peu moins de vent, disait-on.
Hein. Mais il y a eu de l'eau.
Il y a eu de l'eau. Oui.
Paraît-il hier, oui.
Oui. Donc, très belle région, Bagnols. Et il y a une librairie qui est tenue, alors c'est
à Port-Vendre,
Claude
Faber.
Il y a une librairie qui est tenue par quelqu'un que nous avons bien connu ici à Toulouse, hein, puisqu'il a écrit même sur des ouvrages sur Toulouse, sur le pont, la destruction du pont, le pont suspendu. Qu'il y avait, qui a enjambé la Garonne, qui a été remplacé, il a écrit là-dessus, et il a écrit aussi un très beau livre, une très belle biographie de Achille Viadieu, hein, qui est un des grands résistants, de la résistance toulousaine. Voilà, donc une région qui est quand même une région fertile, au point de vue événements culturels, hein, et bien entendu, Philippe-Marie Bernadou participe très allègrement à ces événements, avec son épouse, que nous saluons aussi, hein, les deux étant, bien sûr, d'anciens libraires.
Voilà. De Montauban.
De Montauban, la librairie de Loche, librairie mythique de Montauban, où j'achetais mes livres le jeudi, puisque j'ai vécu 5 ans à Montauban, dans les années 60. Et ma récompense, c'était le jeudi d'aller m'acheter un livre de poche à la librairie de Loche. Voilà, donc ravi de recevoir ici Philippe-Marie Bernadou, qui est un grand poète dont je vais parler. Si tu le permets, Philippe-Marie, je vais faire quelques annonces très rapidement. D'abord pour un livre qui est le suivant. Il s'agit d'un livre de Harold Cobert. Alors, Harold Cobert, il a écrit un livre qui s'appelle « Le procès Mein Kampf » aux éditions Les Escales. C'est une histoire vraie de la période où Hitler, dans les années donc 1934, interdisait la vente de Mein Kampf et la traduction de Mein Kampf en France. Alors, pour une raison bien simple, hein, c'est que, bien entendu, dans Mein Kampf, il dévoilait ce qu'il avait l'intention de faire et qu'il ne voulait absolument pas que ceci soit révélé aux Français. Alors, il y a quelques citations, je vais vous lire. Hein. Hitler, qui est une citation de Harold Cobert, « Hitler n'est pas un homme politique ordinaire. Comme Mirabeau le disait au sujet de Robespierre, il croit tout ce qu'il dit. » Alors, ça nous renvoie également à des figures contemporaines, hein, de dirigeants qui croient tout ce qu'ils disent et qui, bien entendu, le mettent en œuvre.
Hein. Je ne vois pas de qui tu parles.
Voilà, hein. Oui. Voilà. Hein, ce qui veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'intemporel dans ce genre de personnage. Alors, il ajoute que c'est une espèce rare dans l'époque où nous vivons, rare mais également dangereuse, lorsque les convictions se transforment en idéalisme qui se mue à son tour en idéologie, parce que rien n'est plus funeste que l'idéologie. Toute idéologie est totalitaire, elle divise le monde en deux camps, ceux qui adhèrent à la vision qu'elle promeut, et les autres, qu'il faut soit soumettre et convertir, soit supprimer. Alors, on en reparlera de ça, justement, à propos de ton livre, hein, puisque je crois que c'est des idées qui peuvent tout à fait émerger. Donc les poètes, bien entendu, vont pouvoir dire cette chose-là, mais à leur façon, c'est-à-dire d'une façon, à mon avis, beaucoup plus sensible et beaucoup plus percutante. Nous allons en parler dans quelques instants. Il cite Nicolas Chamfort, je trouvais que cette citation était à relever. Dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il leur convient de se montrer. Dans les petites, ils se montrent comme ils sont. Voilà. Et ça, j'avoue qu'il n'y a pas un jour où on le retrouve. Hein. Et puis, on va finir sur cette citation qui est une interrogation et aussi un avertissement. Hein. Sommes-nous capables de défendre nos compatriotes juifs à l'heure où leur existence et leur droit de vivre sont de nouveau menacés? Avons-nous réellement tiré les leçons d'un passé innommable où nous saoulons-nous de vaines et creuses paroles pour nous donner une bonne conscience aussi éphémère que bon marché? Revenir à Mein Kampf, l'une des plus profondes racines du mal, permet d'éclairer notre présent sur la nature et les mutations de l'antisémitisme. André Gide écrivait « Toutes choses sont dites, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. » Alors, ne cessons jamais de répéter et de nous souvenir pour que le pire ne se reproduise pas. C'est là où croît l'antisémitisme, décroît l'humanité et prospère la barbarie. Voilà. Donc, je conseille la lecture de ce livre de Harold Kober, Le procès Mein Kampf, l'époque où Mein Kampf interdisait, Hitler interdisait Mein Kampf, c'est aux éditions Les Escales. Édition Les Escales. Voilà pour l'annonce. Très vite, le dernier de Christian Bobin, hein, assez déroutant. Tu ne sais pas si Philippe Marie, tu l'as lu.
Pas celui-là.
Alors, L'eau des miroirs, nous consacrerons une émission entière, bien entendu. Je demanderai peut-être à Jean-Pierre Siméon également de nous parler de Christian Bobin, de ce livre. L'eau des miroirs, donc, que vient d'éditer Gallimard, de Christian Bobin. C'est un récit poétique. Alors, c'est certainement d'ailleurs le premier par lequel Christian Bobin, qui était jeune poète, prend sa voix. Mais je disais que c'est un livre un peu déroutant parce que dans ce livre, il fait parler une femme. C'est très curieux. Et bon, quand on a lu tous les Christian Bobin, qu'on connaît bien cette œuvre, c'est très curieux de se mettre à la lecture de ce livre dans le personnage qui parle donc au jeu, c'est la première personne, et ce personnage est une femme. Alors c'est une femme qui nous parle, elle se meurt, cette femme, parce qu'elle est délaissée par son amant, et tandis que l'amour froide s'étend sur elle, elle raconte l'amour qu'il a lié à un homme vivant, reclus parmi ses livres. On va voir qui c'est cet homme vivant, reclus parmi ses livres, si ce n'est Christian Bobin. Oui. Quand on l'a un peu approché, il était des... Alors, s'il y avait des gens agoraphobes, c'était bien lui. Dès qu'il y avait trois personnes, ça provoquait chez lui un malaise vraiment très, très intense et très réel. Hein. C'est très, très curieux d'avoir ça. Alors, de cette situation très romanesque, vraiment hein, très romanesque, sourd déjà toute la richesse de l'œuvre en gestation, la rupture avec le monde, hein, Christian Bobin, rupture avec le monde, mais les mots du désir charnel, la nature salvatrice ou s'abandonner. Ce livre agit telle une naissance, violente, tendre, essentielle, nous dit l'éditeur. Alors, c'est à lire, c'est un livre d'une grande richesse et un foisonnement du langage, une complexité quand même aussi du langage, une richesse telle du langage qu'il faut s'y reprendre à deux ou trois fois. Moi, je relis les pages deux, trois fois pour poursuivre dans le... Mais il y a là une somptuosité de la langue qui est peut-être, de tout ce qu'a écrit Christian Bobin, je dirais la plus complexe. La langue la plus complexe qu'il ait écrite, c'est dans ce livre, L'eau des miroirs. Voilà. Nous en reparlerons, mais je voudrais le signaler. Donc, c'est aux éditions Gallimard. Ça vient de sortir, c'est un petit livre. Petit livre, mais tellement dense, tellement intense comme lecture. Christian Bobin, donc L'eau des miroirs. Voilà, j'arrête donc avec mes annonces que je réserve à la semaine prochaine pour parler de Philippe-Marie Bernadou. Alors, Philippe-Marie Bernadou, tu es arrivé, joie.
Oui. J'ai vécu toute ma jeunesse en Ariège, les 4 premières années de ma vie au Mas d'Asile,
oui,
que tu connais.
Oui, oui, puisqu'on partage ça quand même. On a ce patrimoine en commun.
D'ailleurs, il y a 2 allusions dans le recueil à la grotte.
Oui.
Il y a l'image de la grotte qui revient 2 fois. Mais je n'y ai vécu que mes 4 premières années, jusqu'à 15-16 ans dans la basse Ariège. Je suis né à Pamiers, mais j'ai vécu vraiment à la frontière de l'Haute-Garonne. À la limite de l'Haute-Garonne. Et ensuite, j'ai vécu à Toulouse pendant 15 ou 16 ans aussi. Et puis donc, j'ai à Montauban pendant une trentaine d'années. Et depuis 5 ans, à Banyuls, à la retraite.
Voilà. Alors, tu as animé dans ces deux villes, Toulouse et Montauban, dans des émissions littéraires radiophoniques.
Oui, à Toulouse.
Je salue...
À Canal Sud, à l'époque.
Alors, Canal Sud, oui, j'ai vu le...
Si ça existe toujours.
Alors, ça existe toujours, et je faisais des émissions moi-même à Canal Sud le dimanche de 10h à midi. Et pour ne rien te cacher, j'en suis parti un jour en courant, parce que j'ai eu un rat énorme qui a traversé le studio, qui est arrivé sur la table et qui m'a passé sous le nez. Et je n'avais jamais vu de rat aussi gros comme un chat. Comme un chat. Canal Sud, donc, qui existe toujours et qui était.
Anciennement Radio Barberousse, une des premières radios pirates à l'époque. Et une des premières radios libres
de Toulouse. Où on a fait de belles choses ensuite à Canal Sud. Et j'ai continué avec Abdelmajid Kawa, je ne sais pas si tu vois qui est.
Oui, bien sûr.
Qui est mort il y a peu de temps. Qui est justement est mort juste avant d'avoir passé quelque temps à Perpignan, pour aller à la mer à Perpignan. Ça a été une de ses dernières joies, Abdelmajid Kawa, donc, qui animait des émissions à Canal Sud, et avec auquel, bien entendu, j'ai participé très très souvent.
Oui, on l'avait reçu à la librairie à Montauban.
Oui, oui, grand ami de Michel Cosem. Michel Cosem qui l'a beaucoup aidé, Abdelmajid Kawa. Majid Kawa qui ne s'est pas remis en définitive de son exil. La façon dont il est arrivé à la suite de la guerre civile des années 90, il est arrivé en 94 précipitamment, après l'assassinat de Tahar Jaout. Il était le suivant sur la liste quand même. Et ne s'est véritablement jamais remis quand même de cet exil. L'Algérie lui manquait. Même s'il y est retourné, ce n'était plus... Voilà, il ne s'en est pas remis et il est mort. C'est assez dramatique quand même. Alors, une belle œuvre poétique, Philippe-Marie Bernadou. D'abord, Rougerie. Le premier, c'est Elle. Elle, la Rougerie, dans des éditions qui étaient mythiques à cette époque-là.
J'ai eu cette chance d'avoir été édité par René Rougerie.
Oui, René Rougerie.
Qui a sorti mes 3 premiers recueils, espacés tous les deux de cinq ans.
Littoral, donc là, c'est avec Michel Baglin.
Texture.
Puis de nouveau, Rougerie avec B. B-E-E-S, puis cratère, créature, rougerie, encore, désœuvrement, nous avions fait une émission, je crois, là-dessus.
Sur désœuvrement. Et cataclysme,
cataclysme simple, donc, dans
la
collection.
À peu près en même temps,
oui.
On avait fait l'émission à ce moment-là. Oui.
Voilà, alors cataclysme, puisque il y a son premier littoral, EL, etc., B, tout ça renvoie aussi à cette fascination à la fois de la mer et de l'insularité.
Des îles, au départ, c'était des îles.
Oui, donc Cadaquès étant cette presque une île qui peut faire semblant d'île.
Coupée du monde.
Oui. Donc ça, c'était chez Gallimard, l'arpenteur. De nouveau, Encre vive avec ensuite Le Monde 2, d'ensuite,
qui était en 2020. Un ouvrage post-Covid.
Oui, post-Covid.
Mais encore, nous parlait beaucoup de ce que serait le monde d'ensuite, le monde d'après.
Oui, donc, il est exactement comme le monde d'avant.
C'est un peu ce que je disais à ce moment-là.
Oui,
je n'avais pas trop d'illusions.
Oui, tout à fait. Oui. Et le livre pour lequel, bien entendu, Philippe Marie est ici aujourd'hui, c'est le prix. Alors, il s'agit du prix.
Nicole Drano-Strandberg,
qui est la, voilà, c'est la de cette année.
Première année que ce prix est attribué, voilà, à l'initiative de Éric Chasselière, qui a repris la revue Encre Vive à la suite et après le décès de Michel Cauzet, qui étant basé à Frontignan, a voulu rendre hommage à Nicole Drano-Strandberg, qui est décédée il y a 2 ans. Et qui était de Frontignan, elle et son mari Georges Drano, qui avait fait beaucoup pour la poésie, qui faisait beaucoup de rencontres entre Frontignan, Montpellier, Sète. Et donc il a constitué un jury de poètes et de créateurs locaux, locaux autour de Montpellier. Oui. Et ils ont fait un appel à manuscrits, ce qui est très rare, puisque maintenant les prix ne se décernent la plupart du temps que sur livres publiés. Oui. Donc, étant abonné à Encre Vive, j'avais eu l'information et j'ai proposé mon manuscrit parmi les 121 qu'ils ont reçus. Et je suis très fier d'avoir été choisi
et nous aussi,
pour être édité.
Alors, il y a dans ce livre, donc, il est édité maintenant, donc. Un prix sur manuscrit, ce qui est quand même effectivement assez exceptionnel. Hein. Ça veut dire que je crois qu'il y avait, comment ça s'appelle, Guy Rouquet.
L'atelier imaginaire.
L'atelier imaginaire, oui.
Je ne sais plus comment ça s'appelait.
À Lourdes, qui attribuait effectivement un prix sur manuscrit. Ouais. Et il y avait plusieurs jurys. Moi, je faisais partie des jurys de base, hein, ceux qui devaient. Donc, c'est un gros travail quand même.
Et oui, d'écrémage.
D'abord, il faut trouver le jury. Et le travail d'écrémage est un travail quand même assez ingrat. Bon. Et moi, c'est pas une surprise que tu aies eu ce prix.
Merci.
Et il y a dans ce livre, Philippe Marie Vivant Demain, dans ce livre, donc. Publié à la Rumeur Libre, il y a une citation de Michel Cauzet qui dit « Il y a dans l'œuvre de Bernadou une inattendue liberté et une ouverture simple et pensive au monde. » Voilà.
C'était une phrase qui introduisait le monde d'ensuite, justement,
voilà, le monde d'ensuite,
dont on parlait.
Elle est très belle, cette phrase, je trouve, et elle se résume assez bien. Assez bien. Alors, « Vivant demain ». Donc, après le monde d'ensuite, ben, il faut continuer à vivre.
Oui, il faut continuer malgré tout. Il faut continuer et à vouloir que demain soit plus beau qu'aujourd'hui.
Alors, il y a. C'était comment il s'appelle, Jam Sacré, qui a.
J'ai eu l'honneur qu'il me présente donc, à la remise du prix à Frontignan. J'aime sacré prix Goncourt de poésie 2025.
Il n'y a pas ça sur le livre, il n'y a pas ce qu'il a écrit.
Ah, c'est bien dommage. Non, parce que le livre était déjà paru.
Ah, c'est
et
dommage.
Le texte, je ne l'ai lu qu'après.
Ah, oui. Tu l'as là, ce texte. Je crois qu'il faudrait peut-être en lire des extraits, si tu veux bien. Je ne l'ai pas mené. La partie non. qui te concerne, oui. pas sur le. Voilà, pas sur.
Il ne faut pas terminer ce moment de plaisir sans revenir à Vivant Demain. Des poèmes qui ne sont pas du rien et qui savent voir ce que nous oublions de voir souvent, qui nous rappellent, malgré leur belle concrétude, que nous allons sans doute vers ce rien. Rien ou presque, c'est une citation, la trace de nos pas par endroits effacés déjà, comme si nous ne passions plus sur la plage que par moments, par erreur. Ces poèmes nous le rappellent avec souvent un humour, qui n'empêche pas les plus inquiétantes réflexions. L'agonie des poissons qui ne comprennent pas pourquoi soudain tant d'oxygène. Notre liberté, c'est leur mort. Je sais que tu penses à l'Afrique. Et une grosse part du livre de Philippe Marie est emportée, travaillée par l'énormité des malheurs du monde et par le sentiment de sa risible prétention de poète à vouloir en parler en dénonçant les causes. Son poème parle ou veut parler du monde et ce n'est que poésie des mots, oui, presque rien, mais quand même là, de main vivante, avons-nous pensé, sous forme de ce livre qu'édite la Rumeur Livre, et bien sûr, poème vivant, ici, aujourd'hui, pour nous qui le lisons.
Très belle, très fine. Bon, on trouve tout le germe sacré, hein, c'est-à-dire ce sens du raccourci, il va à l'essentiel toujours, hein, très percutant. Et bon, c'est très dommage que ce ne soit pas sur le livre, pardon.
Et oui, c'est...
Mais en tout cas, nous allons mettre ce texte dans l'émission pour les auditeurs de Radio Occitanie. Cette émission, vous la retrouverez comme d'habitude sur notre site Les Poètes, un point site, Les Poètes sans accent tout attaché, Les Poètes point site, et nous mettrons bien entendu le texte de Germe Sacré dans la légende de l'émission de Philippe-Marie Bernadou sur la parution de son livre Vivant Demain, parce que vraiment, je trouve que...
Il y explique bien, c'est une première partie d'ailleurs,
très bien.
Il explique bien l'esprit du prix, voilà, pourquoi voilà. Il a été créé.
La première partie, non. Voilà. Il explique bien la philosophie du prix, pourquoi il y a ce prix. Voilà, nous laisserons ça, ce sera en ligne, donc nous le rendrons public. Alors, maintenant, Vivant Demain. On est en plein... Alors, la poésie, on peut se dire, les poètes sont des gens éthérés, etc. Là, on est dans une poésie, comme le dit Germe Sacré, qui est une poésie de plein pied avec le monde d'aujourd'hui, le monde réel, le monde du vivant. Hein, le monde du vivant est dans la formule « inc et nunc », ici et
maintenant.
Ici et maintenant. Donc... il y a là tous ces poèmes nous parlent de ça, c'est-à-dire de ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Tout à l'heure, j'ai lu un texte sur l'idéologie qui fabrique des cauchemars, hein, qu'on veuille ou non. Ça, ce recueil, c'est tout à fait le plein pied de la vie. Et je crois que ce qui doit aussi définir le poète, c'est cette capacité à voir ce discernement dans le plein pied de la vie, qui ne veut pas dire une espèce de matérialité tous azimuts de la vie, loin de là, au contraire même. C'est une prophétie au sens le plus large du terme, c'est-à-dire... En disant le réel, en disant ce qu'est aujourd'hui, et en s'interrogeant sur demain, et en faisant part des doutes sur cet avenir. Hein,
partir du réel, effectivement.
Voilà,
il faut partir du réel.
Voilà, partir du réel.
Puis,
oui. Pour être prophétique, au sens, c'est-à-dire prophétique, c'est pas l'appétit de Delphes, hein, loin de là. Mais c'est attention, nos actes peuvent nous amener quelque part. Voilà. Et je crois que ce que l'on lit dans ce livre, c'est un peu tout cela.
La poésie, à mon avis, n'est pas là pour donner des leçons, surtout pas, mais faire peut-être un état du monde, oui.
Prendre conscience.
Et puis après, chacun.
Oui, c'est l'éveil d'un état de conscience.
Et du doute.
Et du doute.
Et du
voilà.
Doute.
Et du doute, voilà.
Parce qu'on en parlait justement tout à l'heure, il n'y a rien de pire que les donneurs, que les idéologues, que les gens qui n'ont qu'une optique. Hein. Il faut savoir, non pas douter de tout, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas douter, mais ne pas avoir trop de certitudes réductrices.
Hein. Voilà. Et imposer sa vérité, surtout aux autres, de façon excessivement violente. Je crois que le mieux, Philippe-Marie, c'est d'avoir le ton de ce recueil. Je vais te demander donc de bien vouloir commencer à nous lire des extraits, ce que tu veux.
Mais j'aime bien commencer par le dernier des recueils, les derniers des poèmes du recueil.
D'accord.
C'est pas par esprit de contradiction, mais c'est parce que c'est le texte qui figure en plus en quatrième de couverture. Donc, c'est le premier qui est donné à la lecture. On y parle de la grotte et du torrent, pour en revenir là. Et c'est une sorte d'art poétique, si on peut dire, ou plutôt de non-art poétique, où j'aime bien le jeu de mots de anart poétique, et qui s'appelle rien que de poésie. Ma poésie ne parle pas de poésie. Elle parle du torrent sous la grotte, du pin Douglas qui cherche sa place dans nos montagnes, du renard et de la poule et du fermier, de l'équilibre qui jamais ne se fera entre le croc, la gorge et le gardien, entre la faim et le travail. Elle parle des chemins qui se croisent parfois et du mal à les tenir tressés, du busard et du lapin, de la force et la ruse que nous avons apprises pour échapper aux griffes, aux serres, aux grilles. Elle parle de toi et de moi, de cet acharnement à traverser les âges. Elle parle des roches, des planètes et de nous. Elle parle d'une étoile sur un béret et de nous. Elle parle du sac et du ressac, cette mer qui bat pour l'éternité dans nos veines, les algues qui s'y caressent, la bulle d'un baiser de poisson, tout ce que nous avons à dire. Et de drapeaux aussi, dans la brume des gaz lacrymogènes, des cris absurdes contre l'absurde vitre du temps, des hommes lassés d'être nourris de rêves, déçus peut-être de n'en avoir pas plus. Elle parle des caravelles prêtes à lever l'ancre, des futurs que nous nous obstinons à inventer, des lunes et des mars où nous nous sauverons, et plus certainement de cette pauvre terre qui mourra avant nous. Je veux dire, avant eux, toi et moi, mon amour, nous lui survivrons dans un sourire d'étoile sur un béret cosmique. Ma poésie ne parle de rien, que de poésie.
Voilà. Alors c'est vrai, effectivement, ça annonce...
Il y a beaucoup de thèmes. Hein.
Oui, tous les thèmes du recueil qui sont là. Hein. Et ce qu'a bien vu d'ailleurs, et je pense que le jury a dû une poésie qui ne parle de rien que de poésie, en même temps qui parle du monde. Hein. Mm. Parce que c'est ça aussi le paradoxe. D'ailleurs, attention, mon poésie ne parle que de poésie.
Elle ne parle pas de poésie, mais elle ne parle que de ça.
Oui.
Parce que la poésie est,
est
partout.
Parce que la poésie est partout, bien entendu. Voilà. Et il n'y a rien qui échappe à la poésie. Hein. Je me souviens d'avoir eu une critique très violente à propos d'un recueil de Muriel Modéli, d'une autre poète,
hein,
qui me disait, mais enfin, comment vous avez pu faire une émission là-dessus, alors qu'elle a fait un poème qui parlait de la notation annuelle, donc des fonctionnaires. Bon, mais rien n'échappe, rien ne doit échapper à la poésie. Il n'y a pas, c'est fini, le romantisme du poète sous son rocher, dans une ambiance éthérée et qui va faire des annonciations au monde. Non, c'est plus ça. Voilà.
Oui, en même temps... Léo Ferré l'a très bien dit il y a quelques années déjà.
Oui. Oui. Alors, on va continuer. Donc, il y a... Donc, bien entendu, quand on te connaît, on voit le torrent et la grotte. Moi, bien sûr, je suis très touché par ça parce que le torrent, c'est la Rize, et la grotte, c'est la grotte du Mas de Zil. Bon, moi, je suis né là, où j'ai été guide dans cette grotte pendant des années, où j'ai fait des fouilles, et que j'aime comme une personne, quoi. Voilà. Parce qu'on peut, la poésie, c'est ça aussi, c'est pouvoir aimer des choses d'une façon très intense. Alors, il y a dans ce recueil, on va continuer la lecture. Je vais te demander de continuer la lecture de Vivant demain.
Et donc l'architecture un peu du recueil, commence par des textes essentiellement sur la mer.
Oui.
Et puis au centre, il y a un poème un peu monstre qui fait 17 pages, je crois, qui est une déambulation dans une ville. Je peux l'avouer, c'est Toulouse, hein. Fantasmée et inventée.
Oui.
une déambulation d'un couple dans un climat un peu de fin du monde, de canicule, et qui est peut-être le texte le plus politique de, du recueil. Et le recueil finit sur des textes sur ce que nous vivons depuis quelques années, qui sont introduits par un texte qui s'appelle « Mobilisation générale », sur le climat de ce qu'on nous montre, de ces guerres qui montent un peu partout, et du fait qu'on nous y prépare plus ou moins.
Oui,
très bien. On nous y prépare mentalement, je veux dire.
Oui, très bien. Très bien.
Voilà comment
construit. Alors, c'est là aussi le paradoxe entre la poésie de ma poésie qui ne dit rien et en même temps la poésie qui est une photographie du monde, quand même.
Oui, hein? Alors, c'est pas qu'elle ne dise rien, elle ne parle pas de poésie, c'est-à-dire, je n'aime pas beaucoup, je ne suis pas un théoricien, tout simplement.
Oui.
Je fonctionne en sensation.
Elle ne parle de rien que de poésie.
Mais elle ne parle que de
que de poésie.
Ne parle pas de poésie en théorie, mais tout ce dont elle parle, bien sûr, c'est de la poésie, puisque
j'ai la
faiblesse de croire que j'écris de la poésie.
Oui, oui. Voilà. C'est la langue.
De passer au moule, de passer au tamis de la langue, les sensations, les émotions.
Oui.
Et ce qu'on reçoit du monde.
Bien sûr. Voilà. Et tout ceci ne peut avoir le vocable de poésie que par le travail quand même de la langue.
Oui.
Le travail énorme de la langue, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le succès de la langue. C'est ce qu'il va faire. C'est le succès de la langue qui va faire, en définitive, le poème.
J'en ai pas tellement conscience.
Oui, oui, parce que c'est naturel.
Mais je sais qu'il y est.
Oui.
Il y est. Bon, je ne dirais pas que je ne travaille pas non plus mes textes.
Oui.
Bien sûr. Un des travaux que je fais, c'est l'oralité.
Ah oui.
Quand j'écris un texte, j'aime beaucoup qu'il sonne bien.
Oui. Oui, oui, oui. Ensuite, bon, je pense que toi en particulier. On ne part jamais de rien. C'est-à-dire que on est nourri en permanence, quand même, par les lectures.
Bien sûr.
On arrive à un âge aussi où on a beaucoup lu, beaucoup intégré, beaucoup assimilé de choses. Et tout ça, bien entendu, ce sont des réminiscences inconscientes ou des réminiscences, pas au sens de copiage, mais façonnent façon de voir le monde. Une façon de voir le monde. Et la poésie est aussi une façon de voir le monde. Et toujours, habiter le monde en poète, ça reste toujours d'actualité. Il faut habiter le monde en poète. Et c'est à ce recueil aussi, nous y invite.
J'ai laissé des 4 références à des poètes dans le recueil.
Oui.
Il n'y en a que 4. J'aurais aimé en mettre beaucoup plus. Mais je ne voulais pas non plus faire du name dropping, comme on dit.
Oui.
Mais apparaissent Baudelaire, Éluard, Ritsos et Casimir Pratt.
Oui, oui. Casimir Pratt.
Forcément, qui est mon ami de lycée.
Oui, alter ego depuis longtemps.
Et qui lui-même est pour beaucoup dans la lecture que j'ai pu faire. De Rixos, de Jacoté et d'un tas d'autres, de Neruda.
Oui. Oui. On retrouve effectivement chez vous deux le même goût pour les mêmes poètes. Effectivement.
Oui.
Hein? Rixos en particulier, oui.
Ah oui, là, il y a...
Alors on va commencer par, tu vas nous lire quoi l'épisode Toulouse ou l'épisode...
Oh non, il est beaucoup trop long.
Oui.
Tu veux bien, je voudrais parler justement de mon passage des Pyrénées
très bien.
À la mer.
Oui.
Pourquoi je suis arrivé à la mer, c'est le titre, comment pour moi la mer fut évidente. J'appartenais aux terres sèches et salées des montagnes, j'en avais été les vents, je savais la sympathie des chèvres, l'ombre noire du figuier et le lait blanc des figues. Je savais les cyprès, les cierges qu'ils font autour des tombes, le débleu du ciel jeté par-dessus, et toute l'indispensable pacotille des processions, des crucifix, consolament, les femmes en noir prêtes à faire de la solitude leur plus belle monture, la vieille fatalité contre laquelle il allait bien falloir se battre. Je savais la racine résignée des héritages, les cailloux légués et l'ordre de les aimer, la peur des femmes et de leurs amulettes, et aussi la longue patience avant que l'herbe pousse, que le serpent mue, que l'enfant nous porte. Le temps qui ne se compte plus si la beauté traverse un ciel couchant, traverse la rue, une cruche dans l'arrondi du bras, traverse une parole. J'avais appris que la vie se mérite, et je ne sais toujours pas si c'est vrai. Alors, quand vint la mer, la simple certitude d'être enfin arrivée, que plus rien jamais ne nous fera douter quand la vague nous irrigue son battement dans nos veines, quand pour la première fois j'ai compris l'horizon et que rien n'arrêtait l'espoir, quand j'ai pu refermer mon poing de terre sur du sable, donner à boire à mes montagnes, à mes aïeux des destins de marins, la certitude d'un port à mes égarements et à mes naufrages la couleur des départs, alors la mer fut évidente.
Très très beau texte. Hein. Et tu dis aussi, la mer ne dort jamais.
La mer ne dort jamais. Oui. Là, c'est le...
Dans son ventre, la procession des fantômes, de jour en jour, plus longue.
Le côté plus sombre. Du cimetière qui est devenu la Méditerranée. Oui, voilà. Effectivement.
Les lames des coraux sont leur nouvelle prison, fouettées d'algues et brûlées de sel. Ils cherchent encore quel aveu les sauverait, quelle prière ils ont omise. Quel sacrifice oublié leur vaut ce purgatoire, la pulsation translucide des grands fonds bat dans leur crâne vide et leur poitrine creuse, où croisent les poissons, mais ce n'est pas la vie et ce n'est pas la mort, puisqu'ils pleurent des larmes de sel, rien ne les consolera, et dans le ventre de nos nuits, ils marcheront sans fin. Alors, pareil à la mer, nous ne dormirons plus. Voilà.
Et là, on est dans le... Le contemporain,
oui.
Cruel. Dans le... J'ai une amie qui est poétesse, qui m'a écrit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit « Tu écris la brutalité du monde comme un chagrin inconsolable ». Et je trouve qu'en quatre mots, brutalité, chagrin inconsolable,
oui.
Effectivement, elle s'appelle Patricia Bertin. Oui. Elle a très bien vu... toucher du doigt.
Oui. Parce que il y a effectivement des poèmes là-dessus. Il y en a eu malheureusement. Enfin, je dis malheureusement, c'est des mauvais poèmes. Mais c'est très difficile d'écrire sur ça. C'est très difficile.
C'est plus difficile. C'est plus facile d'écrire sur le chagrin de soi.
Oui. Oui.
Que sur le chagrin du monde.
Oui.
Mais bon.
Oui. Sans être...
Moi, je crois que c'est un poème où le chagrin du monde
chagrin. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Et d'ailleurs, la lecture de l'ensemble donc de ce livre, c'est un peu ce qu'on ressent, si tu veux. Il y a une dimension... Alors d'abord, je trouve qu'il y a malgré tout une dimension un peu nostalgique aussi. Peut-être inconsciente. Je ne sais pas.
Oui, certainement. Hein? Certainement, parce que de retour vers le passé, pas trop.
Mais, oui.
Regret de ce qu'était le monde, pas trop non plus.
Oui. Mais de ce qu'il est devenu.
Oui.
Oui, donc si on regrette ce qu'il est devenu, c'est que quand même, malgré tout, le monde ancien n'était pas... Bon, ce qui est certainement l'heure, le monde ancien,
Je n'y crois pas trop, franchement.
Voilà. C'était mieux avant, c'était pas évident.
Ce qu'il est ne me va pas, mais ce qu'il était, je ne le regrette pas.
Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, quoi qu'il se passe, le monde ne s'améliore pas. Alors, est-ce qu'on se trompe ? C'est...
Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Je sais qu'il il faut croire qu'il s'améliorera.
Oui, pour rester vivant.
Pour rester vivant, n'est-ce pas, c'est de...
Rester vivant demain. Rester vivant demain. On va continuer à lire des extraits de ce...
Je voulais justement expliquer l'histoire de Vivant Demain, expliquer le titre.
Oui, alors.
Parce qu'il y a trois ensembles de textes, entre autres, de faits de plus de poèmes courts, parfois même de fragments. Il y en a un qui s'appelle Ostraca, qui est fait, les ostracas en archéologie, c'est les tessons, les bouts de poterie sur lesquels subsistent des fragments d'inscriptions. Et j'ai rassemblé des phrases qui me paraissaient intéressantes, alors que je trouvais que le reste du poème n'était pas bon. Donc j'ai fait mes ostracas à moi. Et il y a une autre série qui s'appelle Études en rouge, qui est une série d'une vingtaine de poèmes qui tournent autour de la couleur rouge. Le rouge du sang, le rouge des drapeaux, le rouge du feu et du feu atomique. Et cette vingtaine de poèmes est entrecoupée de textes en prose qui ne sont pas à proprement dit des commentaires, mais qui sont des échos ou des dérivations, je dirais, à partir de ces poèmes-là. Et c'est dans cette série que se trouve l'explication du titre, sur un poème très court, qui parle du rouge du soleil couchant. Tous les soirs, quand le soleil s'éteint, veillez ce dernier cri de lumière, vieille religion, torche pour traverser nos rêves, étincelle dans le foin de nos peurs, ou soufflez demain, vivant demain.
Voilà.
On s'est sauvé une braise pour remettre le feu le lendemain. Et rallumer le soleil, en fait. Voilà pourquoi Vivant Demain.
C'est quand même tout le thème de la transmission.
Aussi.
Oui.
Bien sûr, sinon on n'écrit pas.
Oui, c'est transmettre.
Oui.
C'est transmettre. Vivant Demain, c'est transmettre. J'avais noté j'aurais peut-être aimé que tu lises cette étude en rouge, peut-être dans les... de plus larges extraits, si c'est possible.
Oui, j'arrive tout de suite. J'ai oublié de couper mon téléphone. je commence par le premier, puis je en sélectionnerai deux ou trois comme ça, avec poème et texte en prose qui suit.
Oui.
Trois bombardiers décollent à 2h45. Dommage que ce soit lundi. Dommage que ce soit si tôt, l'heure où le boulanger cuit le pain près du temple Shinto. Puis, plus rien. Plus une miette. Le feu cuit le feu. Désarroi de n'avoir rien à transmettre que le doute absolu. L'homme a disparu des intérêts de l'homme. Bien sûr, Auschwitz, Hiroshima... Pour quelques-uns encore ne seront jamais des noms, comme n'a pas de nom la barbarie quotidienne. Nous disions le capital, et ce mot maintenant fait sourire. Et de ce sourire, on meurt, aussi sûrement desséché dans nos œuvres qu'une momie de Pompéi sous la cendre. Je vais passer.
Tu parlais de la cendre, on pourrait peut-être faire. Il y a l'allusion à Casimir.
Oui.
Ou la cendre, la flamme, notre.
Le silence avant l'orage et l'éclair. Tu es nu quand la foudre, clouée à ta confiance, te partage. Oh, la cendre, la flamme, notre fulgurant passage. Casimir, la cendre précède la braise et la braise le feu. Le film est monté à l'envers. De l'étouffement jaillit Iskra, l'étincelle. De la grisaille, la révolte. Tout est cendre. Miracle, voici l'heure. Tout est cendre étant le titre d'un recueil, de Casimir
Poisse.
Et pour finir, le dernier de la série Études en rouge, qui a failli s'appeler Écorché de gueule, puis j'ai pas osé. Écorché de gueule, c'est le terme héraldique, c'est le langage des blasons. Le rouge, c'est la gueule, et écorché de gueule, c'est un terme de héraldique. Je me suis dit, si je laisse ça comme titre, jamais un jury ne le prendra. Mais bon, c'est des textes quand même assez écorchés, justement. La même image revient. Des chevaux dans la steppe, un chiffon gorgé de sang. Peut-être est-ce un jeu, peut-être est-ce la guerre. Peut-être la guerre est un jeu. On assoit les enfants sur les chevaux pour les préparer au massacre. On prépare les enfants à gagner et à perdre. On apprend aux enfants à se battre. Comprends-moi, on peut refuser de gagner ou de perdre. On peut refuser le jeu. Personne ne l'apprend. C'est tout seul, face à l'absurdité, qu'on le ressent. Alors, on ne bâtit pas, on ne s'affirme pas. Vouloir, c'est déjà perdre. On sculpte, on peint, on écrit, on crée, on crie. On s'assoit en travers du courant. Cette autre image, face aux chevaux qui s'épuisent aux leurs et à leurs cavaliers, on s'assoit dans le courant, on s'érode lentement, et l'éternité est toujours aussi loin, ce chiffon ensanglanté.
Alors, c'est suivi ensuite de Ostraka.
Oui, des Ostraka.
Alors là, ce sont des proses. Hein.
Ce sont des bouts de poèmes,
oui,
que j'ai compactés.
Oui.
Pour certains, il y en a que j'ai laissé isolés, mais
c'est curieux comme démarche quand même.
Les premiers, je les ai compactés en prose en mettant beaucoup de points de suspension pour montrer le fractionnement.
Et justement, je fais une diversion, mais Bruno Ruiz a réuni par exemple un certain nombre de poèmes de 40 poètes, hein, et en a fait un ensemble assez compact qui a du sens, où il y a une cohérence. Voilà. Et c'est vrai que les collages, alors bon, moi au départ, j'avais réagi en disant, mais c'est du collage, bon, les surréalistes ont fait ça il y a un siècle maintenant, pourquoi en revenir là-dessus? Mais non, effectivement, il a prouvé que cet ensemble pouvait donner lieu à une création originale.
C'est tous des poètes contemporains qu'il a pris
ou... Ah, mais c'est les poètes de l'Académie des Jeux Floraux.
Ah, d'accord, oui.
Oui, donc tout à fait contemporains, vivants même.
Non, c'est vivant. ce qui donnait déjà une unité
de langue
et de préoccupation, peut-être.
Oui. On va écouter Ostraka.
Lequel?
Si vivre n'est pas fuir, voilà, hein, par exemple.
Si vivre n'est pas fuir, encore moins rester, les assis, recroquevillés sur leur héritage, gravés dans le marbre moussu de leur carrière, pour qui les bateaux en partance sont des bénéfices arrière, l'horizon une courbe de vente, eux qui ont fui leur révolte, leur épaisseur, leur estime, rester désespérément égaux à eux-mêmes. Baudelaire doit aller à Maurice trouver l'albatros qui lui ressemble. Partir pour se rejoindre. Ne pas fuir, ce n'est pas non plus tenir contre vents et marées, contre l'érosion du sable et celle des jours, une position hautaine, un fort, un phare dont un jour nous nous serions cru le cornette, un devoir inventé par un autre pour une autre, dont l'abandon nous réduirait en poudre. Résister. J'en ai tant vu qui se fossilisaient comme les moailles de l'île de Pâques, perchoirs à mouettes, sanctuaires de guano, immuables, croyait-il, abattu par une galerie de taupes. Ne pas fuir, c'est se battre. Ne pas reculer nous importait. Des nuits, il fallut toute notre détresse pour ne pas céder aux ombres noires, au souffle chaud de l'abandon. Couche-toi, regarde comme c'est facile, ne pense plus. Oh, surtout, ne pense plus. Je ne sais ce qui battait en nous d'absurde pour refuser toujours la brave paix, la calme paix. Poser plus loin notre barda étoilé, trouver refuge pour la pierre où s'étaient formés nos doigts, la grotte où nous avons pour la première fois ouvert les yeux, une femme pour qui nous avions été courageux et que depuis nous suivions au bout du monde, et voici ce qu'il me semble. Vivre, c'est approcher, c'est s'approcher.
C'est beau. Vivre, c'est s'approcher.
Ça peut être contradictoire avec le fait qu'il faut se battre et,
oui.
Et le problème et au bout où je dis qu'on apprend aux enfants à se battre et qu'il ne faut pas. Bon.
Oui, mais s'approcher, ça veut dire être proche de l'autre aussi.
C'est s'approcher l'un de l'autre.
Oui, voilà. Oui.
C'est approcher les faits, les mots le plus possible, mais s'approcher, ne pas rester dans sa solitude.
Voilà. Et c'est peut-être ce que l'homme a le plus de difficultés à faire actuellement.
Peut-être.
On dirait. Enfin, je dis actuellement, mais certainement c'est de tout temps.
Oui, disons que les nouvelles technologies n'arrangent rien pour s'approcher.
Oui.
Contrairement à ce qu'on pense.
Oui, tout à fait. Alors là, tu prêches plus qu'un convaincu. Je pense que c'est une catastrophe.
Oui.
Parce que c'est un leurre complet et on manie des leurres en permanence. Voilà. Tu pourrais peut-être continuer. Alors, voyons sur quoi tu pourrais continuer. Les caméras ne sont pas objectives aussi.
Ah oui, ça c'est le très long poème.
Oui, mais pourquoi pas donner un extrait.
Ouais, c'était peut-être ça. Donc c'est un couple qui déambule dans une ville avec une chaleur épouvantable et une ville, disons, qui est très policée. Il y a beaucoup de police, quoi, c'est ce que je veux dire. Elle n'est pas très polie. Il fait nuit depuis si longtemps. Bientôt la mer débordera les quais. Sûrement au nord, une noyade d'ours. Déjà, elle efface les signes que nous ne regardions plus. Hiéroglyphe patient, comme un regard de chien. Tu dis que je parle trop de cœur gravé quand le mien est aussi grave qu'une stèle vierge. Slogan bombé. Solidarité avec les coupeurs de canne à sucre du Nicaragua. Tag hésitant entre l'anonymat et l'orgueil. Les artistes. Et aussi, ne vous retournez pas. Il y a un poète à l'intérieur de vous. Forcément, tu te retournes. Tu te retournes comme un gant. Ce n'est pas beau à voir les tripes et le verre brisé. L'intérieur d'un poète.
Terrible.
Là, j'ai récupéré aussi des slogans. Solidarité avec les coupeurs de canne à sucre du Nicaragua, c'est un vrai slogan qui faisait pratiquement le tour des arènes à l'époque où les arènes existaient. Et c'était un slogan qui était plein d'une lettre gigantesque et que je n'ai jamais oublié.
Nous sommes en train de parleur.
Oui.
Donc, Philippe-Marie Bernadou, vivant de même, le prix. Obtenu le prix Nicole Drano-Strandberg. C'est édité à la Rubeur Libre et ça vous coûtera 16 € à lire de toute urgence. Et vous pourrez retrouver cette émission ainsi que donc la préface, l'avant-propos de Jab Sacré que nous mettrons en ligne sur notre site lespoètes.site. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu.
À très bientôt. À très bientôt. Bon retour donc sur la Méditerranée. Et à très bientôt. Et vive la poésie.
À bientôt.